Nous nous sommes proposé le sujet de la réception à la table du Seigneur. C'est un sujet qui concerne la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Laissé à la responsabilité des croyants. En introduction, nous pourrions lire d'abord une parabole du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Marc au chapitre 13. Le verset 34. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda au portier de veiller. Veillez donc. C'est comme un homme allant hors du pays. Avant de s'absenter quelque temps au ciel, après la résurrection et son élévation dans les cieux, dans cette parabole, nous voyons que le Seigneur confie ses biens et sa maison à ses serviteurs qui en sont responsables. Laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves. Il est bien précisé que c'est à ses esclaves, ceux qui connaissent la volonté de leur maître, qu'il laisse sa maison et aussi au portier. Dans l'Ancien Testament, à Jérusalem, on assurait une garde continuelle à chacune des portes. Après un contrôle rigoureux, on ouvrait ou on fermait la porte à celui qui se présentait. Et le Seigneur confie donc à ses serviteurs et à ce portier, le portier, de veiller aux portes de sa maison, aux portes de la maison de Dieu. Ce qui veut dire que le Seigneur a une maison sur la terre où son autorité doit être reconnue. Ses serviteurs sont là pour reconnaître l'autorité du Seigneur sur sa maison. Il laisse donc ses serviteurs, ses esclaves, avec un travail à accomplir. Et il place spécialement un portier à l'entrée de sa maison, afin de veiller durant la nuit et jusqu'à son retour. Et il commanda au portier de veiller. Veiller sur la maison de Dieu, c'est d'abord avoir à cœur cette maison. Est-ce que nous avons à cœur la maison de Dieu? Et c'est une activité qui demande de l'intégrité, de l'obéissance et de la fidélité. Juste rappeler un verset dans Actes au chapitre 20. On pourra peut-être y revenir plus tard. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 28 et 29. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-même des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. Pour souligner ce verset 29, moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. La fonction du portier, c'est de veiller. Et pourrions lire quelques passages dans l'Ancien Testament qui peuvent nous éclairer sur cette fonction du portier que nous pourrions voir ensuite dans le Nouveau Testament. D'abord dans le premier livre des Chroniques. Chapitre 9. Verset 17 jusqu'au verset 29. Et les portiers, Shalom et Akub et Talmon et Akimam et leurs frères. Shalom était le chef et ils sont jusqu'à maintenant à la porte du roi au levant. Ils étaient les portiers des camps des fils de Lévi. Et Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères, les Corites, de la maison de son père, étaient préposés sur l'œuvre du service, gardant les seuils de la tente. Et leur père avait été préposé sur le camp de l'Éternel, gardant l'entrée. Et Phiné, fils d'Éléazar, fut autrefois prince sur eux. L'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Tout cela choisi pour portier des seuils était 212. Ils furent enregistrés par généalogie dans leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leur charge. Et eux et leurs fils étaient établis aux portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente, pour y faire la garde. Les portiers étaient vers les quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Et leurs frères dans leur village devaient venir de 7 jours en 7 jours, d'un terme à l'autre, auprès d'eux. Car dans leur charge, ces quatre furent les principaux portiers, ils étaient lévites, ils étaient préposés sur les chambres et sur les trésors de la maison de Dieu, et ils se tenaient la nuit autour de la maison de Dieu, car la garde leur en appartenait, et ils en avaient la clé pour ouvrir chaque matin. Il y avait aussi quelques-uns d'entre eux qui étaient préposés sur les ustensiles du service, car ils rentraient en les comptant et ils sortaient en les comptant, et il y en avait qui étaient commis sur les vases et sur tous les ustensiles du lieu saint, et sur la fleur de farine, et sur le vin, et sur l'huile, et sur l'encens, et sur les aromates. Les portiers, ici, étaient des Lévites, étaient des fils de Corée, des Corites, des fils de la grâce. Nous nous souvenons ce qu'il en était devenu de Corée. Et donc nous voyons que, par grâce, l'Éternel avait établi des Lévites, des Corites, comme portiers, aux portes donc de la maison de l'Éternel. Les portiers gardaient les seuils, ils gardaient l'entrée, ils gardaient les chambres et les trésors de la maison de Dieu. Et il nous est dit qu'ils avaient la clé, ils veillaient aux vases et aux ustensiles du lieu saint. Si nous transposons ce qui nous est dit dans ce premier livre des Chroniques, nous voyons que non seulement ils avaient la garde de l'entrée, mais aussi ils avaient la garde des vérités spirituelles de la parole de Dieu. Et si nous pensons au Nouveau Testament en ce qui nous concerne, particulièrement sur les vérités qui concernent l'Assemblée de Dieu, de la table du Seigneur et de la scène du Seigneur. Une remarque au verset 24, les portiers étaient vers les quatre vents. C'est une expression particulièrement touchante, c'est-à-dire ils veillaient de tous les côtés pour que rien n'entre dans la maison de Dieu qui ne corresponde pas au caractère de Dieu. Et verset 27, nous voyons qu'ils avaient la clé. Encore dans le deuxième livre des Chroniques, sur le même sujet, au chapitre 23, il nous est parlé dans ce chapitre de Jéhoïada, le sacrificateur, au verset 19 du chapitre 23 du deuxième livre des Chroniques, dans un temps de reconstruction, de rétablissement de ce qui convenait dans la maison de l'Éternel, nous voyons au verset 19 qu'il place les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'y entrât aucune personne impure en quoi que ce fût. Le sacrificateur, ici Jéhoïada, veillez au maintien de la saine doctrine, à ce que le mal ne s'introduise pas dans la maison de Dieu. Nous devons être conscients de notre propre faiblesse, mais nous sommes exhortés à veiller et être vigilants aux portes de la maison de Dieu. Un petit peu plus loin, dans le livre de Néhémie, au chapitre 7, premier verset, « Or il arriva quand la muraille fut bâtie et que j'eus posé les battants des portes, qu'on établit dans leurs emplois les portiers et les chantres et les lévites. Et je chargeai du gouvernement de Jérusalem Hanani, mon frère, et Hanania, chef du château fort, car c'était un homme fidèle, et il craignait Dieu plus que beaucoup d'autres, et je leur dis que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud, et qu'on devait fermer les battants des portes pendant qu'ils étaient là, et mettre les barres, et qu'on devait placer des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, et chacun devant sa maison. On a évoqué dans la prière que nous sommes dans un temps de ruines, de décadence, et nous voyons que dans Néhémie, que l'ordre est rétabli à Jérusalem, dans la maison de Dieu, que la muraille de séparation est construite, mais nous voyons apparaître les caractères nécessaires pour être des portiers dans la maison de Dieu. Au verset 2, il nous est parlé de Hanania, qui était un homme fidèle et qui craignait Dieu, plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud. Pourquoi ouvrait-on les portes de Jérusalem quand le soleil était chaud? Le risque, c'était que pendant l'obscurité, eh bien que l'ennemi puisse entrer furtivement à l'intérieur de Jérusalem. Encore un petit peu plus loin, dans Néhémie, au chapitre 11, au verset 19, voyons, je crois que ça a été lu tout à l'heure, et les portiers, Akub, Talmon et leurs frères qui étaient de garde aux portes 172. Pourquoi Dieu nous cite ce nombre de 172? Eh bien, c'est pour souligner l'importance de la fonction d'un portier dans la maison de l'Éternel. Au chapitre 12, juste à côté, au verset 25, nous voyons Matania et Makubtia et Abdias, Meshulam, Talmon, Akub faisaient la garde comme portier au magasin des portes. Cela veut dire que à chaque porte, il y avait des magasins où étaient stockés des biens et de la nourriture. Eh bien, les portiers devaient vérifier que ces biens et cette nourriture convenait au peuple de Dieu qui était à l'intérieur de la ville à Jérusalem. Donc nous voyons différentes activités. D'abord les caractères des portiers, fidèles, craignant Dieu, veillant à ce que rien d'impur entre dans la maison de Dieu, veillant au bien et à la nourriture qui entre dans la maison de Dieu, pour ceux qui appartiennent à cette maison. Les portiers, dans le Nouveau Testament, sont, comme nous l'avons lu dans Acte 20, sont les surveillants dans l'Assemblée de Dieu aujourd'hui, sans doute aussi les pasteurs que nous trouvons dans Éphésiens 4, les anciens de 1 Timothée 3, mais aussi avec l'aide de tous, de tous les serviteurs. Nous ne devons pas oublier quels sont nos devoirs vis-à-vis de l'Assemblée de Dieu. Dans la parabole de Marc 13, nous voyons un seul portier. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait un grand nombre de portiers avec leur caractère nécessaire. Eh bien, nous devons en tirer profit de cet enseignement de la parole de Dieu, que nous soyons tous de vrais portiers à la maison de Dieu pour veiller à ce qui entre dans cette maison convienne à la présence de Dieu, parce que c'est la maison de Dieu. Le sujet de, après cette introduction, le sujet de l'admission à la table du Seigneur est en rapport avec la maison de Dieu sur la terre. Pourrions dire quelque chose sur la maison de Dieu sur la terre. L'Assemblée de Dieu a pour image dans le Nouveau Testament la maison de Dieu, le corps de Christ et l'épouse de Christ. Dans Matthieu 16, nous voyons que c'est Christ qui bâtit la maison, qui bâtit son assemblée. On peut lire le passage. Matthieu 16, verset 18. « Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. » Dans Acte 20, de nouveau, nous pouvons lire que au verset 28, il nous est dit « L'assemblée de Dieu, laquelle, donc Dieu, a acquise par le sang de son propre Fils. Si Christ bâtit la maison, le propriétaire, c'est Dieu. C'est sa maison sur la terre. C'est une maison qui est glorieuse, car Dieu y habite. Ce n'est pas notre maison, mais c'est Christ qui bâtit ce glorieux édifice. Et il est lui-même, c'est l'enseignement de l'Épître aux Colossiens, il est lui-même la gloire de cette maison. C'est Dieu qui choisit les matériaux pour sa construction et qui les sanctifie. C'est-à-dire que les rachetés du Seigneur, nous sommes des pierres vivantes qui sont ajoutées à cet édifice. Nous sommes tirés de ce monde et Dieu nous met à part, nous sanctifie et nous sommes donc des pierres vivantes de cette maison. Alors, si nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que cette maison, cette construction a commencé à la Pentecôte avec la descente du Saint-Esprit et s'achèvera à la venue du Seigneur. Si nous regardons aux côtés de Dieu, eh bien, le travail de Dieu, le travail que opère le Seigneur Jésus, Christ, est parfait et inaltérable. Mais il y a l'autre côté, c'est-à-dire, nous le voyons dans la première épître aux Corinthiens, que cette maison est aussi confiée à la responsabilité des hommes. Elle nous est confiée. Le travail de Dieu est parfait et inaltérable. Nous pouvons nous poser la question de notre responsabilité quant à la construction de cette maison. Si nous formons cette maison, la première épître aux Corinthiens nous enseigne comment elle doit fonctionner collectivement et quels sont les caractères de cette maison et que ces caractères que nous devons maintenir aujourd'hui dans le monde. Nous savons que l'Église est tirée du monde, nous sommes mis à part, nous en sommes séparés de ce monde, et que maintenant l'Assemblée porte le témoignage de Dieu. Et nous devrions veiller à ce que tous les principes divins qui concernent cette maison, eh bien, soient vraiment réalisés et pratiqués dans cette maison, et au contraire, rejeter tous les principes qui viennent du monde et que nous devons absolument rejeter. Dans la première épître aux Corinthiens, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Eh bien, il dresse la muraille entre ce qui est du monde et ce qui convient à la maison de Dieu. Alors, quels sont les caractères que nous devons maintenir de la maison de Dieu? Nous voyons dans la première épître aux Corinthiens que l'apôtre Paul s'adresse à tous les sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre. Au chapitre 4, à la fin du verset 17, l'apôtre Paul nous dit que cet enseignement, il le donnait partout, dans chaque assemblée. Au chapitre 7, au verset 17, à la fin, il nous est dit « Ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. » C'est-à-dire que tous les enseignements que l'apôtre Paul dispense dans la première épître aux Corinthiens particulièrement, bien sûr toutes les autres épîtres aussi, eh bien, cet enseignement concerne les caractères de la maison de Dieu, nous allons en citer quelques-uns de ces caractères, Dieu voulant, et la responsabilité qui est la nôtre de chaque assemblée du Seigneur, de chaque assemblée de Dieu, localement, à maintenir ces caractères. Parce que cette maison, c'est la maison de Dieu, Dieu y habite, et Dieu doit trouver dans sa maison que tout ce qu'il doit trouver dans sa maison soit en rapport avec ce qu'il est. Le premier caractère que nous devons maintenir comme assemblée de Dieu, nous le trouvons dans la première épître, donc aux Corinthiens, au verset 10, à la fin du premier chapitre. Chapitre 1er, que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Le premier caractère à maintenir par une assemblée de Dieu, c'est l'unité. Rechercher la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit ensemble pour agir selon cette pensée. Ce qui veut dire, sans faire de compromis entre nous ou sans rechercher un terrain d'entente humain. Dans Jean 11, si le Seigneur voulait réunir en un les enfants de Dieu dispersés. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 52. Donc le souverain sacrificateur cette année-là prophétise que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Le premier caractère à maintenir dans une assemblée, c'est l'unité. Mais l'unité selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une entente entre chrétiens, former un club de rachetés, non. C'est l'unité selon Dieu. Le deuxième caractère, nous tournons la page, nous voyons au chapitre 3, au verset 17, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Le deuxième caractère qui doit être maintenu dans une assemblée de Dieu, c'est la sainteté. La parole de Dieu nous enseigne, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, que Dieu est absolu en sainteté. Et la nature de Dieu ne peut pas changer, même si la dispensation change. Dieu est saint depuis le début de la Bible, de l'Ancien Testament. Il y a sans doute plusieurs dispensations, la dispensation de la loi. Nous sommes sous la dispensation de la grâce actuellement. Mais Dieu est toujours saint, et Dieu est absolu en sainteté. Et donc, nous sommes exhortés à être séparés de tout mal, de toute souillure, pour Dieu. Et nous devons nous conduire dans une sainte crainte. C'est le deuxième caractère que nous trouvons donc dans la première épître aux Corinthiens. Ces caractères, on peut le redire, sont valables pour toutes les assemblées. Et se souvenir, bien sûr, que l'apôtre nous dit expressément « J'en ordonne dans toutes les assemblées ». Le troisième caractère que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens, nous le trouvons au chapitre 5, à la fin du verset 7. Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Le troisième caractère que nous trouvons à maintenir dans une assemblée de Dieu, c'est la pureté. Dans le prophète Habacuc, il nous est dit que Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas souffrir l'iniquité, et en sa présence, et ses yeux ne peuvent s'arrêter que sur ce qui est parfait et sur ce qui est absolument pur. Et nous comprenons à travers ce verset d'Habacuc que ses regards se sont reposés avec délices sur la personne de Jésus-Christ, qui a été l'homme sans péché et parfaitement pur. Le troisième donc caractère d'une assemblée, c'est la pureté, c'est-à-dire que notre conduite soit pure, sans mélange et non associée au mal. Unité, sainteté, pureté. Le quatrième caractère d'une assemblée de Dieu, nous le trouvons toujours dans ce chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, c'est la deuxième partie du verset 12, où il nous est dit « Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans ?» Ce quatrième caractère, c'est la responsabilité des saints à maintenir les caractères précédents que nous venons d'évoquer, unité, sainteté et pureté, par la discipline. Entendons-nous bien, la discipline, ça peut être des soins qui sont apportés. Nous pouvons tous défaillir, nous pouvons tous trébucher, et nous avons certainement besoin de la grâce de Dieu. Nous ne devons jamais l'oublier, mais en tant qu'assemblée de Dieu, nous avons à veiller les uns sur les autres. Souvenons de cette parole de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien, réellement, nous sommes chacun les gardiens de nos frères et de nos sœurs, et autant nos frères et nos sœurs sont nos propres gardiens. La responsabilité des saints, c'est de ne pas, bien sûr, laisser faire, de ne pas, hein, j'ai contre toi que tu laisses faire, laisser aller, c'est trop difficile, oh, je ne me sens pas capable, etc. On a sans doute beaucoup de raisons de ne pas faire face à notre responsabilité, mais l'apôtre dit, mais vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Est-ce que vous vous employez les uns les autres à veiller pour que les caractères que nous avions évoqués avant soient maintenus dans une assemblée de Dieu? Le cinquième caractère, nous le voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est un des caractères essentiels, c'est l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers le Seigneur, mais aussi l'amour entre les saints. C'est-à-dire que précédemment, si nous sommes responsables les uns vis-à-vis des autres, eh bien, il faut que les soins qui sont apportés les uns vis-à-vis des autres soient dans l'amour. avec toujours ce sentiment que si nous nous tenons debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous maintenir debout. Il nous arrive de défaillir, eh bien ce sera toujours la grâce de Dieu qui va nous ramener, qui va nous rétablir. Ayons toujours cette conscience du besoin que nous avons, chacun de nous et tous ensemble, de la grâce de Dieu, mais qu'il y ait cet amour envers Dieu et entre les saints. Le dernier caractère que nous pouvons trouver dans la première épître aux Corinthiens concernant une assemblée de Dieu, nous l'avons au chapitre 14, le dernier verset, le verset 40. Mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. La bienséance et l'ordre. Le contraire de l'ordre, c'est, on l'a dit, c'est le laisser aller, c'est le laisser faire, c'est la négligence. Notre conduite et notre responsabilité dans la maison de Dieu découlent de ces caractères que nous venons d'énumérer, avec une double responsabilité, une responsabilité individuelle, le jugement de nous-mêmes, ne pas apporter de souillure, et la responsabilité collective, un exercice de la surveillance et de la discipline. Nous avons à veiller comme étant une expression de l'Assemblée de Dieu localement. Et si nous désirons porter ce titre, une Assemblée de Dieu, eh bien il faut que notre conduite collective soit en rapport avec tous ces caractères divins, tous ces principes divins. Alors un principe, qu'est-ce que c'est qu'un principe ? Eh bien, c'est que les principes divins dans l'Assemblée, c'est ce qui doit régir et gouverner cette Assemblée. C'est-à-dire regarder au caractère de Dieu, ce qu'il est, et que ses enfants, que nous sommes, ses rachetés, eh bien que nous marchions selon les caractères de celui qui habite au milieu de nous.
On pourrait avoir l'impression, à considérer, à ruminer ces caractères que Michel nous a présentés, d'en être bien loin, et c'est certainement en partie vrai. Et qu'au fond, quelque part, il y a quelque chose qui pourrait nous paraître trop haut pour nous, inatteignable. Et je voudrais juste lire d'abord un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Ou à la fin du chapitre 5, c'est un contexte différent des Corinthiens, et je ne prends qu'un aspect de ce qu'on a là dans les Hébreux. À la fin du chapitre 5, l'auteur de l'Épître doit reprocher à ces chrétiens d'origine juive d'avoir négligé, d'avoir oublié, d'avoir laissé de côté tout ce que, par la grâce de Dieu, ils avaient eu comme privilège dans la relation d'Israël avec l'Éternel, et qu'alors qu'ils auraient dû être des docteurs, ils n'étaient plus que des enfants. Et au début du chapitre 6, il dit: c'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait. Il y a l'état pratique que Dieu voit, comme pour ces Hébreux, et il y a la perspective qui est devant. La perspective qui est devant, c'est avançons vers l'état d'homme fait. Puisons dans toutes ces ressources en Christ pour avancer vers cet état d'homme fait qui devrait être pratiquement l'état normal. Et si on reprend dans l'Épître aux Corinthiens, survoler juste quelques-uns de ces caractères, au premier chapitre, cette invitation, ce rappel de cette unité, pourquoi l'apôtre Paul doit en parler ? C'est parce que, justement, il y avait, si on tourne la page, et verset suivant, il y avait un état d'esprit de parti. Si on va plus loin, au chapitre 5, pourquoi il rappelle qu'il y a là ce juger ceux qui sont de dedans, c'est parce qu'il y avait un état où le mal n'était pas jugé. Si au chapitre 13, il est amené à parler ce long chapitre qu'on a tendance un peu à déconnecter du contexte sur l'amour, c'est vrai que ce chapitre 13, on peut le prendre pour lui-même tout seul, il nous apporte beaucoup, mais remis dans le contexte, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Votre usage des dons que Dieu vous a donnés, c'est un usage égoïste. Vous ne le faites pas en ayant devant vous l'amour de Dieu pour vous, l'amour pour Dieu, l'amour pour vos frères, l'amour pour toute âme. » Si encore à la fin du chapitre 14, il est amené à parler de bienséance et d'ordre, c'est en rapport avec un usage désordonné, en particulier du don de parler en langue. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je voudrais simplement relever une chose. Nous avons là une assemblée, l'assemblée de Dieu à Corinthe. Si nous passons en revue tout ce qui est dit à l'assemblée de Dieu à Corinthe, chapitre 15, on n'a pas l'occasion d'évoquer, il y avait à la fois de l'ignorance mêlée, une mécompréhension et une fausse doctrine quant à la résurrection. Une base de mécompréhension. Donc, au fond, une réalisation très faible de tout ce à quoi nous sommes appelés, individuellement aussi bien que collectivement en assemblée. Et pourtant, toute cette lettre s'adresse à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe. Ce n'est pas dans un premier temps, et j'insiste sur ce premier temps, dans un premier temps, ce n'est pas la réalisation pratique, parfaite de ces caractères qui détermine que nous soyons, que nous réalisions, que nous soyons réellement considérés par le Seigneur comme son assemblée. Ces caractères ont toute leur place et ont toute leur importance. Leur réalisation, c'est la marche, c'est une marche de tous les jours. Et c'est cet esprit qui nous amène à avancer vers l'état d'homme fait, à faire ce point, ceci, cela, cela, où en sommes-nous, où en suis-je, qu'en réalisons-nous, en quoi nous en sommes-nous écartés, en quoi sommes-nous en danger de nous en écarter, on a évoqué les portiers avant, en quoi ne pas veiller à ce qui entre, et quand on parle de ce qui entre, c'est avant tout par nos cœurs, individuellement, à nous. Dans le passage de Acte 20, il est d'abord parlé de personnes, d'entre vous-mêmes, avant de parler de personnes de l'extérieur. Si nous ne veillons pas à ces choses-là, alors peuvent fleurir, grandir, croître, se répandre des choses qui sont contraires à ces caractères. Et c'est ce qui s'était passé à Corinthe. Et cette épître est là et nous rappelle, c'est comme des bornes qui sont replacées pour nous rendre attentifs. Attention, où en sommes-nous par rapport à ces bornes ? Où en sommes-nous ? Il y a des choses où peut-être tout est en ordre. Il y a d'autres choses où nous avons à faire le constat où cela en est. Et je dis cela par rapport au fait que si on prend juste ces caractères tels que Michel nous a présentés, un peu, je dirais, bruts comme ça, on les reçoit, c'est quelque chose qui effraie, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui peut décourager. On peut se dire, mais on est loin de tout ça. On est très loin de tout ça. Mais Dieu, le Seigneur, veut nous faire avancer dans ces choses-là. Non pas vers ces choses-là, mais dans ces choses-là. En prendre la conscience de leur portée, de leur signification pratique. On peut remarquer d'ailleurs qu'elles ne sont pas présentées en tant que telles. On n'a pas une énumération dans cette épître de ces caractères. Paul ne dit jamais à un moment, si vous êtes l'assemblée de Dieu à Corinthe, alors vous avez cette liste de caractères qu'on doit trouver chez vous. Non. Il introduit ces caractères par les circonstances que traversent, que connaissent, que vivent mal les Corinthiens.
Nous savons qu'à Corinthe, toutes les choses n'ont pas été réglées. Mais nous voyons l'apôtre Paul à la fin de la deuxième épître au chapitre 13 et qu'il demandait leur perfectionnement. On peut lire 2 Corinthiens 13, les versets 7 à 10.
Mais nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous nous paraissions approuvés, mais afin que vous, vous fassiez ce qui est bon et que nous, nous soyons comme des réprouvés. Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité. Car nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles et que vous, vous êtes puissants. Et nous demandons ceci aussi, votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que quand je serai présent, je n'use pas de ces vérités, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pas pour la destruction.
Nous voyons que l'apôtre a à cœur le bien des Corinthiens, même s'il n'était pas toujours approuvé par les Corinthiens. Mais nous avons cité 6 caractères que nous avons apportés, mais encore un 7e, c'est la patience. Et je ne l'ai pas trouvé, je crois qu'il est dans l'épître de Jacques, que soyez patients les uns envers les autres. Soyez patients. C'est aussi un caractère en dehors de l'amour, de la grâce, de tous ces caractères que nous avons cités.
Je pense que la patience est inclue dans l'amour. L'amour, chapitre 13, verset 4 de la première épître aux Corinthiens, l'amour use de longanimité. Il est plein de bonté.
Simplement pour citer le passage qui a été cité sur la patience, usez donc de patience les uns envers les autres. Et c'est quelque chose d'important, effectivement, pour chacun de nous. Pensons à nous-mêmes souvent, nous laissons conduire par notre. Usez donc de patience, donc, c'est à Jacques 5, verset 7. Usez donc de patience, frère, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. C'est aussi une pensée importante pour nous. La venue du Seigneur est proche.